Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin, invité politique de la matinale, est Guérec Hamon. Il est référent des jeunes horizons des Côtes d'Armor et il est en direct avec nous ce matin. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour, je vous remercie de me recevoir une nouvelle fois.
Eh bien, on va parler politique une nouvelle fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'actualité politique. Et évidemment, on va parler des agriculteurs et plus précisément du salon de l'agriculture avec des images qui ont fait le tour de l'Europe et même du monde, de ce président de la République chahuté, hué, les CRS, la BAC, les services pour le protéger. On a senti une cassure entre le monde agricole, mais peut-être plus entre le président et les Français, lambda, on pourrait le dire comme ça.
Oui, après une rupture avec le président en particulier, je pense que c'est plutôt une rupture avec... les politiques de façon générale, avec la sensation qu'ils sont hors sol. On peut reprocher, c'est vrai, la violence qu'il y a pu y avoir à l'encontre du président de la République, et on peut la comprendre. On peut la comprendre, mais ça ne veut pas dire forcément l'accepter. Il y a une cassure, c'est vrai, les problèmes se posent tant sur le plan national et sur le plan européen, et je crois qu'il y a du travail de fait, je crois qu'il y a surtout une écoute aussi des agriculteurs, et on n'est pas là du côté du gouvernement sur des formules miracles. On ne change pas finalement, on ne retourne pas sa veste, notamment comme c'est le cas du Rassemblement National qui, en 2017, était dans une publicité contre l'agrochimie, contre les néonicotinoïdes et les pesticides. Et aujourd'hui, finalement, non, c'est la solution. Avant, il voulait inscrire dans la Constitution un droit justement à une bonne alimentation saine et pure. Et maintenant, on est plutôt sur de leur côté sur la solution, c'est les pesticides. Donc, il n'y a pas du côté du gouvernement ce qui leur est reproché par les partisans du Rassemblement National, d'être un peu laxiste là-dessus. Non, on travaille le fond, on voit ce qui se passe et on apporte des réponses. Il y a des réponses qui ont été apportées notamment par le Premier ministre.
On a vu justement le Premier ministre, Gabriel Attal, venir deux fois à la rencontre des agriculteurs, des paysans, pour essayer de faire passer le message. Ça a été plus, on va dire, plus posé, en tout cas moins chahuté que la visite du président de la République. Et puis, il y a eu la visite de Jordan Bardella, vous parliez à l'instant, Guérec Hamon, du Rassemblement National, qui a été très bien reçu par le monde agricole. Et c'est-à-dire que le monde agricole bascule de la droite, on le dit souvent à droite, à l'extrême droite.
Je pense pas qu'il bascule. Il n'y a pas de fatalité. Il ne bascule pas. C'est juste que c'est vrai qu'il y a certainement une exaspération, un désespoir de leur côté. C'est vrai, le Rassemblement National, mais ça se voit de plus en plus. Joue là-dessus, et comme je viens de le dire, justement, il y a quelques années, ils étaient pour, justement, ils étaient plus écologistes que les écologistes. Maintenant, ils sont productivistes, sans même se poser de questions. Et puis, leur position, elle est actuellement alignée sur ce que veulent les agriculteurs. Donc évidemment, ils ne vont pas dire non, on rejette leurs propositions parce que c'est le Rassemblement National. Non, ils vont plutôt être d'accord, seulement là encore. Il faut regarder aussi ce qu'ils disaient auparavant. Quand c'était de bon ton de dire qu'on était écologiste, ils l'étaient. Maintenant, ils ont peut-être regardé plus dans le détail, ou je ne sais pas comment ils fonctionnent. Maintenant, ils ne le sont plus. Mais alors, plus du tout. C'est le jour et la nuit. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Moi, je pense notamment à la loi immigration de la dernière fois, l'année dernière, où Marine Le Pen, ne sachant pas ce qu'elle voulait, disait oui, on va voter, non, on va voter contre. Ensuite, elle est restée sur un non. Et puis, grand coup d'éclat, ils ont voté pour. Personne n'était au courant. Madame Le Pen est sortie de là en disant c'est une victoire idéologique avec un grand sourire. Mais derrière ce sourire-là, je crois qu'elle en a dit plus que ce qu'elle ne voulait. C'est-à-dire qu'elle est capable, au dernier moment, de dire non, bah finalement non, on n'y croit plus, et puis c'est comme ça. Et puis on ne peut pas prévoir, donc on cache. Donc Le Pen père a perdu en disant, en explicitant clairement ce qu'il voulait faire, il a perdu. Le Pen fille veut gagner en les cachant. Donc c'est éclatant de vérité, cette façon de faire. Et on le verra de plus en plus. C'est pareil, hier, entre l'échange entre Marine Le Pen et Gabriel Attal, on voit la même chose.
Un échange musclé à l'Assemblée nationale.
Oui, et comment on voit Marine Le Pen parler du seul empire mondial, les États-Unis. Mais là, c'est tellement évident, c'est comme le nez au milieu de la figure, qu'il y a en effet un rapprochement idéologique, là encore je vais reprendre son terme à elle, idéologique, sur les méthodes russes. Et quand on regarde son programme de 2022, notamment en matière d'affaires étrangères, en ce qui concerne la Russie, on caresse un petit peu les intentions russes. Par contre, pour l'Allemagne et pour le Royaume-Uni, là il faut tout remettre à plat, parce que rien ne va avec les États-Unis, encore moins. Donc il faut tout remettre à plat. Seulement je crains que le rassemblement veut se donner pour mettre une main, et là je cite un ancien diplomate, qui va bientôt lui faire sentir la rudesse de sa caresse. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas, la Russie ne cherche pas à plaire à Marine Le Pen, à plaire au Rassemblement National. Elle cherche seulement à ce qu'il y ait de plus en plus de mécontentement. Et le Rassemblement National n'est pas... Le Rassemblement National a un bilan, et le Rassemblement National n'est pas une incohérence près, et je crois que ça commence à se voir.
Alors, on va parler tout à l'heure aussi du rapport à l'Europe, puis on parlera des élections européennes qui arrivent à grands pas. Ça nous ramène à ces propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron, propos qui aujourd'hui sont peu ou prou atténués. On fait revenir des éléments de langage pour essayer, j'allais presque dire, faire oublier la sortie du président de la République, qui a dit que rien n'était exclu en matière de soutien à l'Ukraine, ce rien n'est exclu, il y a la possibilité d'envoyer, en tout cas ce sont les propos du président, des troupes européennes pour défendre l'Ukraine. Alors, levée de bouclier, tollé, puis les principaux alliés de la France qui disent non, finalement, on pense à l'Espagne, on pense à la Grande-Bretagne, les États-Unis également, l'OTAN qui a réfuté les propos du président de la République. Est-ce que c'est une bourde, finalement, du président de la République?
Je ne pense pas que ce soit une bourde, non. C'est vrai que on est tous vécu depuis des décennies, et moi j'ai jamais connu la guerre, en tout cas la France en guerre, en guerre directe. Donc évidemment ça choque. Je pense que c'est ça qui est recherché, c'est de dire nous ne sommes pas à l'abri.
C'est une forme d'avertissement en quelque sorte.
Je sais pas si c'est un avertissement, mais en tout cas que cette idée de paix perpétuelle, elle est culturelle. Et on voit que cette paix culturelle, elle est mise à mal à l'Est. Et que finalement, la guerre, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, et que cette parenthèse de paix qu'on connaît en Europe, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a eu aussi, début des années 90, dans les Balkans, mais en tout cas, c'est toujours là. Et là, on a quelqu'un qui, à l'Est, n'a pas peur de la guerre. Il n'a pas peur. Je veux dire, les Ukrainiens, vous les prenez en 2020-2021, ils ne pensaient pas du tout que ça pouvait se passer. Donc, je ne pense pas que ce soit une bourde. Je pense que ça fait bouger dans l'esprit certaines conceptions qu'on a de notre monde aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, il ne s'agit pas d'envoyer, comme on l'entend, nos enfants sur le front. Nous avons une armée qui est professionnelle. Après, est-ce que d'un point de vue opérationnel, on peut aller aussi loin? Là, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça fait bouger un peu, et c'est pas plus mal.
Avec quand même la réponse de Moscou en disant si demain les troupes de l'OTAN venaient à combattre, évidemment, là on rentrerait dans un conflit. C'est quand même inquiétant, on se trouve face à une puissance nucléaire. Est-ce qu'on a les moyens de répondre à cette puissance nucléaire qui est la Russie?
Ça dépend dans quel contexte. Si on a les moyens de répondre, je crois qu'on leur répond assez souvent. La difficulté, là, c'est que la guerre, elle est actuellement plus sur en ce qui concerne la France et ses alliés, elle est plus sur finalement, je dirais, sur le numérique, sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment.
On voit beaucoup de choses d'ailleurs sur les réseaux sociaux, effectivement, de soutien à la Russie.
Oui.
Voilà, ça nous ramène aussi au relais russe en France.
Oui, mais c'est pas, c'est quelque chose qu'on entend depuis un petit moment. Donc, on manquait, tout un chacun manquait de recul. Moi aussi, moi le premier, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu surfait en période électorale, etc. Mais il y a un article du Washington Post de l'année dernière, je crois que c'est le 30 octobre, qui en parlait. C'est-à-dire qu'il reprenait notamment les émeutes de l'année dernière. Ils ont fait une enquête justement sur les réseaux sociaux. Ils se sont aperçus d'une chose, c'est qu'il y avait 1,2% des utilisateurs sur Twitter qui générait 30% des messages là-dessus. Et sur ces 30%, enfin sur ces 1,2% d'utilisateurs, une bonne partie était affiliée avec, je ne sais pas, des cellules russes, on va dire, des cellules russes. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est gouvernemental, parce qu'il réfute le fait que ce soit le cas. Mais enfin, il y a 1,2%. Parmi ces 1,2%, il y a une majorité en lien avec... Donc, il y a de la déstabilisation. C'est pour ça que je disais qu'il y a la guerre, elle est plus là-dessus. Et puis, elle est plus sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a les cyberattaques également, dont on ne parle pas beaucoup, finalement. Mais c'est chaque jour. Donc, cette guerre-là n'est pas sur le terrain avec les armes, avec la mort au bout du fusil. Elle est à portée de main, sur la souris. Et puis... c'est 1,2% d'utilisateurs, c'est n'existe pas. C'est-à-dire, vous voyez, vous prenez par exemple sur une vidéo sur YouTube ou sur Twitter, vous aurez des messages, plein de messages, des relais, etc., etc. Et en fait, tous ces messages proviennent d'une seule et même personne qui aura créé des faux comptes et qui essaye de voilà. Mais je pense que cette dynamique-là de messages pro-russes, elle est évidente aujourd'hui.
On rentre finalement dans l'ère d'une guerre de communication, d'une guerre d'influence, d'une guerre électronique, on pourrait le dire comme ça, avec une autre guerre quand même qui se profile. On parle de l'espace aussi beaucoup.
Oui.
Cette guerre spatiale, on voit des essais de destruction de satellites opérés autant par la Russie que par les États-Unis. Est-ce que là aussi, il y a une matière à être inquiet, parce que si on coupe, si on détruit des satellites, on coupe de fait les communications.
Ah bah, alors oui, là c'est pareil, là c'est, j'ai pas les secrets d'État là-dessus, mais la France, elle s'est dotée justement d'une stratégie. C'était le mandat précédent d'Emmanuel Macron, je crois que c'était en 2019, il me semble, ou 2018, où évidemment, et effectivement, il y avait justement des moyens mis en place par la France, parce qu'on a quand même une capacité aussi, alors une capacité nucléaire, mais une capacité spatiale, notamment en Guyane, avec le Centre Spatial Européen, mais bon, c'est un site en France, donc en Guyane, et des moyens alloués assez conséquents là-dessus, parce que la France n'est pas... ça, on entend toujours que la France est en retard sur des... Non, elle travaille discrètement, c'est vrai, mais elle travaille. Et à l'époque, il y avait justement beaucoup de critiques de ce projet de loi, justement, le spatial militaire aussi. Et beaucoup de critiques, ils disaient « mais c'est n'importe quoi, on est en train de mettre de l'argent dans l'espace, ça ne sert à rien, etc. » Et on se rend compte, finalement, au gré des actualités, que ben, finalement, c'est pas si mal que ça. Et si on avait dû travailler aujourd'hui, on aurait eu 5 ans de retard. Mmh. Et donc, oui, c'est inquiétant, et la France, ça n'a pas envie d'être derrière. Et ça, c'est ça qu'on doit reconnaître aussi à la France. Quand on dit qu'elle va mal, je pense qu'elle réfléchit, c'est un corps, mais qui réfléchit quand même pas mal, pas être bien, moi, voilà. Je trouve.
Réfléchir dans la discrétion, l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace, hein. Il faut le noter aussi au passage. On va redescendre un petit peu sur Terre, Guirec Hamon, on est parti dans une considération géopolitique, et c'est important parce qu'on a un monde qui bouge et qui est quand même un monde en évolution et qui tourne un petit peu la page du monde d'avant. Il reste quand même que sur Terre, on a des préoccupations beaucoup plus terre à terre. alimentaire, on pense à l'inflation, on pense à la difficulté des Français, des Françaises à se loger, à se nourrir, à payer leur électricité aujourd'hui. Et on a entendu les propos de Gabriel Attal réitérés hier sur l'antenne de nos confrères de RTL concernant la réforme de l'assurance chômage, donc une loi qui va aussi intervenir sur l'assurance chômage et qui va demander là aussi des modifications. On pense à la suppression de l'ASS, à la mise en avant du RSA, qui risque aussi de gréver les territoires. Et on pense aux conseils départementaux qui vont devoir assumer cette charge. Est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui de réformer, dans le contexte actuel, cette loi sur l'assurance chômage ?
Mais moi, je vais vous répondre. Ce que Édouard Philippe a dit il y a très peu de temps, c'est que on ne prend pas le temps de faire de bonnes réformes, de grandes réformes. Et ces réformes de l'assurance chômage successives, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, elle doit s'inscrire dans un cadre plus large. Alors évidemment, on a en tête les économies que cela doit générer, inciter un retour à l'emploi, mais ça s'inscrit dans un cadre plus global, plus large, plus réfléchi. Donc,
peut-être plus humain aussi, on peut l'imaginer.
Certainement, certainement. Et là, les oppositions ont toutes leurs raisons d'être aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez, à Horizon, on n'est pas en train de dire « on sait tout ». On sait tout. Non. Alors, c'est un parti jeune, certes, très dynamique, et qui fait confiance aussi à l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, elle n'est pas, c'est pas le monopole du parti Horizon. Donc, à gauche, ils doivent prendre leurs responsabilités, travailler aussi sur, avec en bonne intelligence et en toute honnêteté, afin d'améliorer ces projets-là. Mais en effet, il y a des réformes à mener, mais là encore, il faut les mener sur le long terme, et ça s'inscrit, notamment, on pense au sens que doit avoir le travail.
Cela, il y a une forme de brutalité vis-à-vis des chômeurs qui ont du mal et ceux qui sont les plus précaires d'entre eux, finalement.
Ça peut être ressenti comme ça. C'est ça. C'est là toute la difficulté. C'est que il faut pas que ce soit une forme de brutalité pour la forme. Il faut que ce soit compris et c'est ça tout l'enjeu, justement. Là, on parle de crise démocratique, de crise de représentation. Elle est là, véritablement. C'est faire aussi montrer, faire preuve d'humanisme aussi. Tous les chômeurs ne sont pas, des fainéants qui restent chez eux à ne rien faire. Donc, il y a des réformes à mener, il est vrai, en bonne intelligence avec les oppositions, voir clair dans tout cela et puis avancer. C'est ça qui est important.
Alors, on pense déjà aux élections européennes, je le disais, on va y revenir aux européennes, mais Édouard Philippe, si vous me permettez le terme, il est un peu trivial, mais il est sorti du bois. Édouard Philippe se prépare pour 2027, avec une grande réflexion, on le voit chez nos confrères de la presse, une grande réflexion autour de ce que sera la société de l'après-Emmanuel Macron, finalement. Est-ce que, justement, cette réflexion est nécessaire aujourd'hui? Vous avez commencé un petit peu à y répondre à travers cette réforme de l'assurance chômage, mais est-ce que cette réflexion est nécessaire aujourd'hui, sous peine finalement de voir un divorce total entre les Français et leur représentation politique?
Alors on peut raisonner en absolu, en disant un divorce, etc., mais il y a un travail de fond qui est mené, oui c'est vrai, depuis véritablement la création d'Horizon, mais comment dire, l'après Emmanuel Macron, il est déjà en fermentation. Ça se travaille déjà de tous les côtés de l'échiquier politique. Donc, la solution, quelle est-elle? Est-ce qu'on doit attendre le dernier moment, changer, retourner notre veste, comme il est souvent fait, comme au Rassemblement National, comme chez la France Insoumise? Non. Nous, c'est pour ça. Il sort du bois, il sort pas tout à fait du bois, puisqu'il s'exprimait quand même depuis quelques années, moins que les autres. C'est peut-être ça qu'on appelle sortir du bois, parce que là, on le voit un petit peu plus.
C'est un peu le terme générique, hein, je vous l'accorde.
Oui, oui. Non, bon, après, après, moi, je le vois parce que je m'y intéresse aussi. Donc, donc si vous dites qu'il sort du bois, qu'on le voit plus, c'est qu'on le voit plus. Mais je pense que c'est sain de ne pas à chaque fois sortir des petites phrases. On est tous épuisés par ça. Et voir justement quelqu'un qui prend le temps de la réflexion et pas un temps de confort, je reviens sur la première interview que j'avais eue sur, sur ces ondes, c'est pas être confortable que de chercher à travailler, à réfléchir et à être cohérent. Autrement, on tombera dans des errances que le Rassemblement national connaît depuis 2017. Et là, ça poserait problème en effet parce qu'on ne saurait pas pour qui on vote. Et dans le cadre des européennes, moi j'invite les gens à aller voter. S'ils veulent aller voter pour une liste de gauche, ils voteront pour la liste de gauche, il n'y a pas de souci. S'ils ont envie de voter pour le Rassemblement national, eh bien, nous allons leur montrer que le Rassemblement national n'a pas de colonne vertébrale. C'est un ver de terre qui va à droite, qui va à gauche, qui mange tant bien que mal les idées des autres et qui les digère assez mal aussi. Donc, on va montrer cela. Ils ont un bilan quand même depuis 2017. Et en termes de rapprochement avec la Russie, en termes de transparence... également des décisions, je pense à l'Union européenne, en termes de positionnement sur le Brexit. J'en parlais sur l'agriculture, où là on était pro-écologiste, et maintenant on est pro-néonicotinoïdes, etc. Donc il n'y a pas de structure véritable. C'est un danger. Et quand on voit avec la réforme justement de loi immigration que hop, on retourne sa veste et on sourit, en plus de ça, on a menti et on sourit, c'est tout ce qu'ils reprochent à ce système, et finalement ils en font partie, et parce qu'ils n'ont pas, la réflexion véritable. Je pense qu'ils n'ont pas compris le problème, et c'est la fin justifiant les moyens. À horizon, on le refuse, et Édouard Philippe le montre bien.
Alors il y a des grands sujets, vous avez parlé de la loi immigration, c'est vrai qu'aujourd'hui on a ce sujet de l'immigration qui revient constamment dans l'actualité, le sujet de la sécurité aussi, là le Rassemblement National est en pointe, on pourrait y rajouter Reconquête également, ce sont des sujets dont il va falloir s'emparer, Horizon va devoir s'emparer de ces sujets-là, avoir une vision politique différente évidemment du Rassemblement National.
Sur la sécurité ?
Sur la sécurité, sur l'immigration également.
Ah ben, Horizon l'a dit, et puis avant même que le projet de loi de justement immigration n'arrive à l'Assemblée nationale, il faut regarder ce sujet en face. Est-ce que c'est véritablement, alors ça va être un peu choquant, est-ce que c'est véritablement un problème ? Il y a des difficultés, il y a des ajustements à faire. Est-ce que c'est en dynamitant tout ce que la France met en place qu'on va trouver finalement la solution miracle ? Nous n'en sommes pas sûrs. Il faut travailler en effet là-dessus. Horizon a déjà proposé, notamment sur la loi immigration, Horizon a été quand même assez clair sur la position qu'il souhaitait mener. C'est une des solutions, mais là encore, c'est à prendre dans un cadre général, ce qu'on veut en termes de sécurité après les forces de police, de justice également. Donc,
la justice est souvent pointée du doigt par le Rassemblement national.
Oui, mais ça, s'ils sont pointés du doigt par le Rassemblement national, on voit il y aurait un calendrier électoral sur lequel la justice se calerait. Sauf que je ferai remarquer, et je crois que c'est Monsieur Julien Oudoul qui en avait parlé, que des élections, il y en a pratiquement tous les ans. 2022 présidentielle, 2023 sénatoriale, 2024 européenne, 2026 on aura les municipales, 2027 on aura encore les présidentielles, 2028 on aura les départementales, les régionales. Ça nous laisse quoi ? Ça nous laisse 2025 pour juger les pour juger les responsables politiques. En termes de transparence, je crois que le Front National ferait bien de se pencher un petit peu plus là-dessus.
Sur le temps politique, est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans, finalement, c'est trop court pour un mandat présidentiel ? Est-ce qu'il faut revenir en un mot au septennat, peut-être renouvelable ou pas, faut voir, mais est-ce que c'est aussi la possibilité d'avoir une alternance politique, puisqu'on a les élections législatives qui arrivent aujourd'hui, qui correspondent finalement aux élections présidentielles ? Est-ce qu'il faut revoir le temps politique ?
Mais la question, elle se pose pas tant sur le nombre d'années qu'il faudrait, c'est plus savoir, c'est analyser finalement quelle est la respiration qu'il faudrait donner à la vie politique. Si c'est 7 ans, la France a eu ce septennat, c'est historiquement justifié, ou en tout cas on en trouve les racines dans l'histoire, à la fin du 19e siècle. C'était finalement parce qu'on considérait, c'était quand il y avait la bataille entre les républicains et les monarchistes, on avait considéré que l'un des héritiers des rois de France, en fait, on lui laissait 7 ans à vivre. Et donc, les monarchistes qui étaient à la tête de la République avaient donné comme mandat au président 7 ans. Et voilà, donc ensuite, ça s'est organisé, les institutions se sont organisées, la vie politique s'est organisée autour de ces 7 ans-là. Mais la question centrale, c'est la respiration. Donc, bon, bah, 7 ans pour, si on parle de respiration, alors qu'on a une origine du septennat qui vient plutôt d'une, voilà, d'une certaine idée de la mort, c'est un peu ironique. Mais c'est véritablement la respiration. Donc si c'est 7 ans, pourquoi pas? Mais si c'est 7 ans pour 7 ans, et si ça pouvait être 6 ans, et puis qu'on ne sait pas, il faut une réflexion là-dessus, probablement.
Et il y a aussi, il nous reste deux petites minutes, trois petites minutes, nous dit notre réalisateur, c'est très court, mais je voulais vous entendre aussi sur la respiration démocratique, c'est-à-dire aujourd'hui on entend beaucoup parler de référendum, de réflexion, de participation finalement du peuple aux décisions de l'État. Est-ce que là aussi il faut mettre un peu plus de peuple dans l'État, si j'ose dire?
On revient là justement à cette crise de la représentativité. Ce sont des beaux mots, des belles expressions qu'on utilise, et parfois on en abuse aussi. Donc plus de représentation, je crois que oui, il faut finalement peut-être plus de poids, de considération donnée à cette parole représentée par des élus, notamment par ce qu'on appelle la société civile, mais ça veut tout et rien dire, par les associations. Voilà, c'est plus sur la considération de la parole de l'autre, celui qui décide et ce qu'il a envie d'écouter, ceux qui connaissent. C'est là-dessus que ça se joue.
Ça permettrait aussi d'avoir une France plus apaisée, peut-être plus en cohésion, plus en fraternité aujourd'hui.
Je serais incapable de vous faire une prédiction là-dessus. Parce qu'il faut que de chaque côté, il y ait aussi une démarche honnête. Donc on sait que dans des instances politiques, ça peut être très, très difficile parfois de changer de position.
On va dire un petit mot des européennes, parce que voilà, il nous reste une poignée de secondes. J'imagine évidemment qu'Horizon est en marche, c'est peut-être un peu en asthme. En tout cas, Horizon se prépare pour les européennes. C'est un enjeu important, ces élections.
Oui. Oui, c'est très important, d'autant plus qu'on voit que les voix, c'est pareil, extrémistes d'extrême droite gagnent en force, à ceci près qu'on voit quand même que, notamment en Pologne, aux dernières élections, ils ont reculé. Là, encore une fois, le Rassemblement national et ses alliés, notamment italiens et hongrois, maintenant hollandais, ils ont un bilan. Ils n'ont pas voté le pacte immigration, réglementation européenne sur l'immigration. La pacte, ils ne l'ont pas voté non plus. Ils viennent ensuite donner des leçons aux autres, mais vous êtes là depuis 2019. Alors vous êtes fort, etc., mais vous n'avez rien fait. En termes de transparence aussi, de lutte anticorruption, ils n'ont rien fait. Ils ont un bilan et ce sera l'occasion de montrer que ce bilan est très maigre et que ça ne les portera pas en 2027 en tout cas.
C'est là qu'on va devoir s'arrêter, Guirec Hamon, car le temps, inflexible notre réalisateur sur le temps. Vous reviendrez évidemment et on parlera aussi des élections européennes parce que voilà, les grands enjeux sont là, les grandes questions sont là. On en reparlera évidemment. Guirec Hamon, référent Jeune Horizon des Côtes d'Armor, était avec nous en direct ce matin. Je le remercie. Merci beaucoup.
Merci
je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.